Alors, on enchaîne avec Philippe Lalit. Philippe Lalit est chercheur et maître de conférence HDR à l'Université de Bourgogne. Et donc, il va nous parler de l'usage des descripteurs audio dans l'analyse de l'interprétation musicale.
Merci Pierre. Voilà, donc je vais vous présenter un travail en fait exploratoire sur l'analyse des descripteurs audio pour l'analyse de la performance, l'analyse de l'interprétation. Un travail qui s'est fait dans le cadre de mon HDR, justement. Et donc j'avais déjà utilisé les descripteurs audio pour l'analyse musicale, notamment pour l'analyse d'œuvres contemporaines ou d'œuvres du XXe siècle, d'œuvres de Varèse ou de Berlioz. Et j'étais vraiment curieux de voir si on pouvait utiliser ces outils pour analyser l'interprétation, et notamment l'interprétation de pièces contemporaines, parce que ça pose des problèmes un petit peu différents que l'analyse de pièces classiques, de pièces romantiques ou baroques, notamment parce que les musiques plus récentes font un usage plus important du timbre, des variations de timbre, de la texture, de choses comme ça. On a besoin aussi d'outils justement spécifiques pour analyser ces éléments-là dans des comparaisons d'interprétation. Et donc j'ai travaillé plus spécifiquement sur les 10 pièces pour quintette à vent de Ligeti. Donc j'en parlerai tout à l'heure, mais qui pose aussi des problèmes spécifiques. Donc il y a finalement pas mal de variables d'interprétation qui peuvent être capturées par les descripteurs audio, le tempo, le timing, la saillance de hauteur, le tuning, les micro-variations de hauteur, les micro-variations de timbre, la texture, etc. Il y a pas mal de choses qu'on peut essayer de capturer, en tout cas, avec ces descripteurs audio. Mais voilà, ça pose aussi d'autres problèmes. Et c'est un petit peu l'objet de ma communication, c'est de voir un petit peu quels sont les avantages, les contraintes, les limitations de ces outils dans le cadre de ce type d'analyse. Et donc, ce qui m'intéresse moins, finalement, moi, c'est les représentations visuelles. Parce que quand on a un corpus d'œuvres d'interprétation enregistrées comme ça, si on met 10, 15, 20 représentations d'interprétation, c'est pas très évident d'en tirer quelque chose. Donc, je m'intéresse plutôt à recueillir des mesures que je vais ensuite utiliser pour comparer les différentes interprétations. Alors peut-être déjà un petit peu un point sur la musicologie de la performance, pour dire un petit peu, pour situer un petit peu dans quel champ de cette musicologie je me situe. Alors je me réfère à John Rink qui propose une classification en trois grandes catégories. Hein, la première, ce qu'il appelle les pratiques historiques de la performance. En fait, ce qui concerne deux choses assez différentes en fait. La première, c'est l'analyse de corpus enregistrés sur une période historique d'une cinquantaine, une trentaine d'années. Donc on prend des enregistrements, 20, 30, 50 enregistrements, et on essaie de voir l'évolution de l'interprétation sur une période de temps donné. Mais ça concerne aussi tout ce qui est recherche, évidemment, historique sur la façon d'interpréter la musique, et notamment la musique ancienne. Donc, ce qui sert aussi pour tout ce qui est interprétation historiquement informée. Le deuxième point, c'est la psychologie de la performance, alors qui est vraiment extrêmement vaste là. Ça concerne aussi bien les questions de représentation mentale, de mémorisation, d'expression, mais aussi tout ce qui est déchiffrage, traitement moteur, tous les problèmes physiques. Et la modélisation de l'interprétation aussi. Donc on sort là un petit peu, évidemment, de la musicologie. Et donc la troisième catégorie concerne ce qu'il appelle l'analyse et la performance. Hein, c'est-à-dire que soit on va... là, on se réfère toujours à la partition, en fait, et donc on essaie de voir dans la structure des œuvres et l'esthétique des œuvres comment ces structures sont interprétées en analysant un ou plusieurs interprètes. Et ça concerne aussi la façon dont un interprète va analyser une partition en vue de l'interprétation. Donc une application plus pratique, je dirais, de l'analyse. Donc moi, je me situe plutôt dans la première catégorie, donc où je vais utiliser un ensemble d'enregistrements, un corpus d'enregistrements, et je vais essayer de voir, alors dans le cas de la musique contemporaine, c'est moins l'évolution dans le temps, parce que ce temps est généralement forcément limité, hein, mais en tout cas de voir un petit peu si on arrive à retrouver des écoles d'interprétation ou différentes esthétiques. Lié donc à une pièce. Alors j'ai fait un petit peu l'état de l'art de ce domaine-là, et on trouve la majorité en fait des papiers qui sont publiés sont constitués majoritairement de pièces pour piano du 19e siècle, hein, c'est vraiment la grande majorité. Bon, il y a beaucoup d'études très intéressantes, hein, mais bon, on reste dans un domaine vraiment très très spécifique. Il y a aussi quelques publications concernant les pièces de Bach pour violon seul ou violoncelle seul, parce qu'on est avec un instrument soliste, une pièce pour instrument soliste. C'est un petit peu plus simple, aussi plus facile à analyser. Et on se situe aussi dans un cadre historique très, très, très précis. Quelques études concernant l'interprétation de pièces d'orchestre. Donc là où on va avoir des corpus assez, enfin soit des corpus très importants comme chez Bowen qui analysait par exemple l'exposition de la cinquième de Beethoven. Donc là il y a un corpus d'enregistrement qui est vraiment très 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 grand. Donc et là il essaie de voir s'il y a des, il a surtout cherché à voir est-ce qu'il y a une évolution du tempo. Voilà. Et donc il a montré qu'il y avait une accélération en fait du tempo avec avec la date des enregistrements. Hein. Plus les enregistrements sont récents, plus on a des tempos, des valeurs de tempo qui sont plus élevées. Quoi. Voilà. Ou des versions, donc des corpus un peu moins importants chez Lowe. Alors évidemment, très peu d'études sur l'interprétation de la musique après 1945. On a en fait surtout Berlioz qui est représenté. Donc les sequenzés, la sequenza 1, la sequenza 7, principalement. Aussi pour la raison, parce que ce sont des pièces solistes, et donc elles sont aussi plus faciles, je dirais, enfin c'est un petit peu plus simple du point de vue de l'analyse de l'interprétation. Mais il y a aussi des choses intéressantes, notamment avec la notation, puisqu'il y a, avec la sequenza 1 ou la sequenza 7, il y a la question de la notation proportionnelle ou de la notation traditionnelle. Et donc là, les auteurs ont cherché à comparer un petit peu, à voir s'il y avait une influence de la notation sur les différentes interprétations, ce qui est assez intéressant. Voilà, donc peu de ces études utilisent les outils informatiques de la MAO. Quand ils sont utilisés, c'est essentiellement le sonagramme. Et des logiciels pour capturer le tempo. Voilà. Mais c'est quand même, tout ça est encore très très limité. Hein, beaucoup plus que dans l'analyse musicale des pièces, des œuvres, hein, que ce soit des pièces électroacoustiques ou des pièces instrumentales ou vocales. Alors, quel descripteur peut-on utiliser pour l'analyse de la performance? Bon, là je me réfère à des catégorisations, différentes catégorisations qui ont été faites. Donc celle de Peters qui divise en caractéristiques temporelles, spectro-temporelles ou harmoniques les différents descripteurs. Donc les descripteurs temporels, c'est par exemple le temps d'attaque, hein. Descripteur spectro-temporel, ce serait plutôt le centroïde spectral ou le roll-off ou le flux spectral. Et les descripteurs harmoniques, ce serait par exemple l'inharmonicité ou le rapport harmonique pair ou impair. Voilà ce genre de choses. Alexander Lerch, lui, divise en 5 catégories. Donc là, ce qu'il appelle les caractéristiques statistiques, donc du spectre. Les caractéristiques de timbre ou de qualité sonore d'un point de vue plus général, les caractéristiques d'intensité, soit vraiment au point de vue physique comme le RMS ou plus psychoacoustique comme le loudness, les caractéristiques tonales, donc les hauteurs, la périodicité, etc., pitch periodicity, et les caractéristiques temporelles. Ce sont des catégorisations qui sont plutôt faites pour l'ingénierie. Moi, j'ai essayé de trouver une classification qui soit un petit peu plus musicologique, qui emploie en tout cas des catégories qu'on utilise relativement fréquemment en musicologie. Donc, j'ai plutôt divisé en intensité, en timbre, où on voit là qu'il y a évidemment beaucoup plus de descripteurs dans ce domaine-là. Tout ce qui est du domaine de la dissonance sensorielle, s'entend, et pas dissonance cognitive, hein, qui est quelque chose d'un petit peu plus compliqué à modéliser. La hauteur, donc tout ce qui est recherche de la fondamentale, de la fréquence fondamentale, tout ce qui est du domaine de la saillance de hauteur, les chromagrammes, par exemple. Tout ce qui est du domaine de la périodicité. Le domaine de l'harmonie, donc avec les recherches de tonalité, de clarté tonale, les détections de changements harmoniques, donc détection d'accords, voilà, tout ce genre de choses. Le rythme, avec les détections d'attaque, hein, d'onset. La densité rythmique, la clarté rythmique, le tempo, la mesure, bon, j'ai mis ça dans une seule catégorie, donc la recherche de battement, hein, voilà, de tempo et de mesure, et puis tout ce qui concerne des représentations cognitives, donc d'un peu plus haut niveau, donc avec les matrices de similarité pour rechercher la structure, la fonction de novelty, et tout ce qui est du domaine de la segmentation, en fait, hein, recherche de segmentation automatique. Voilà. Donc, parmi tous ces descripteurs, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour l'analyse de la performance? Je dirais à peu près tout, a priori. On peut essayer de tout utiliser. Évidemment, comme a fait remarquer Mireille, il y a un point crucial, c'est les réglages. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Parce qu'on peut obtenir effectivement des résultats différents selon les réglages qu'on utilise et parfois même les algorithmes qu'on utilise selon les logiciels, hein, qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc là, c'est aussi un point dont on pourra discuter tout à l'heure parce que c'est quand même un point important, c'est vraiment un point crucial. Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'on peut tout utiliser finalement dans ces descripteurs. On peut tenter en tout cas d'utiliser tous ces descripteurs pour l'analyse de la performance, voilà, en faisant bien attention à ce qu'on fait, hein, et aux réglages qu'on utilise. Alors, moi, donc, j'ai tenté d'utiliser tout ça pour l'analyse de l'interprétation des 10 pièces pour quintette à vent de Ligeti. Alors, le choix de la pièce, c'est fait un petit peu, je dirais, parce que ça rentrait dans le cadre d'un projet de recherche plus vaste. Mais finalement, c'est intéressant. Alors, il y a des contraintes, il y a des choses qui rendent la chose plus difficile, finalement, parce que c'est une pièce pour quintette, pour 5 instruments, donc on n'est plus du tout dans le cadre de la musique soliste. Ça multiplie les difficultés. Donc, ça veut dire qu'on a à la fois, on doit avoir le point de vue parfois d'un instrument. Qu'est-ce que fait un instrument? Comment comparer le corps, les différents cornistes dans telle interprétation, par exemple. Mais on a aussi la question du son d'ensemble, de la qualité de l'ensemble dans certaines pièces. Donc ça multiplie un petit peu les difficultés. Évidemment, le fait d'utiliser une pièce contemporaine, c'est aussi un petit peu plus complexe, notamment parce que y a dans cette pièce-là, d'un point de vue esthétique, une grande diversité d'écriture. C'est l'époque où Ligeti bascule un petit peu, hein, invente de nouveaux moyens d'écriture, de nouveaux types d'écriture, hein, que ce soit le style haché, hein, ce qu'on appelle le style haché, ou plutôt le style mécanique, ou les mélodies à l'unisson, le style un peu chaotique, Et il y a plein de types d'écriture qui est concentré dans cette petite pièce, ensemble de pièces. Donc ça aussi, ça complexifie un petit peu la tâche. Mais en même temps, ce sont des pièces qui ont une grande richesse, donc avec des éléments de solistes, avec des instruments différents, beaucoup de variables d'interprétation, beaucoup de variables, aussi bien du point de vue temporel que du point de vue du timbre, même parfois de l'intonation dans certaines pièces, le rapport d'équilibre, le rapport d'équilibre des dynamiques entre les différents instruments. Tout ça, c'était vraiment très intéressant d'explorer ça, d'examiner tout ça du point de vue de l'interprétation. Voilà, juste quelques mots pour ceux qui ne connaîtraient pas cette œuvre de Ligeti. Donc on a 10 petites pièces. À l'origine, il voulait faire en fait des mini-concertos, 5 mini-concertos, un pour chaque instrumentiste, encadrés par une pièce d'ensemble, et puis à la fin une pièce d'ensemble. Et puis donc son projet a un petit peu évolué parce que les pièces sont extrêmement virtuoses. Donc il fallait laisser un petit peu de temps aux interprètes pour souffler. Donc il a fait évoluer son projet compositionnel en intercalant les pièces d'ensemble et les pièces solistes. Ce qui fait qu'on a des pièces d'ensemble, les pièces impaires sont des pièces d'ensemble, les pièces paires sont des pièces solistes. Voilà, et donc on voit ici que la clarinette en si bémol est soliste dans la deuxième pièce, la flûte en ut est soliste dans la quatrième pièce, et ainsi de suite. Donc chaque instrumentiste a une pièce, un mini concerto, où il est soliste. Et donc il y a aussi l'idée chez Ligeti de créer une évolution dans la clarté, si je puis dire, du son, dans la tessiture des instruments, au fur et à mesure qu'on avance dans les 10 pièces. Donc on va commencer, voyez, avec la flûte en sol, donc avec des timbres un petit peu plus graves, avec le cor anglais, et puis plus on avance, et plus il va utiliser des instruments aigus. On finit avec le piccolo, et puis la flûte, le hautbois. Voilà donc pour les 10 pièces. Alors là, quand on fait ce genre d'études, se pose la question du corpus d'enregistrement. Ça, c'est déjà un premier point qui est assez critique. Donc il faut déjà les répertorier, ce qui n'est pas toujours facile, notamment pour des pièces contemporaines. Ensuite, il faut les trouver. Par exemple, le premier enregistrement qui était celui du quintet de la Philharmonie de Stockholm, pour qui les 10 pièces en quintet ont été écrites, mais je n'ai jamais réussi à les trouver. Donc, voilà. Donc cet enregistrement ne figure pas dans mon corpus. Mais bon, j'ai quand même réussi. En tout, j'ai répertorié une quinzaine d'enregistrements. Voilà, mais j'en ai récupéré 10, bon, ce qui est déjà pas mal, ce qui permet quand même de comparer pas mal de choses. Donc un corpus qui s'étale sur 34 ans, ce qui est aussi intéressant, donc ça nous donne quand même une idée. Est-ce qu'on a une évolution, c'est la première question, est-ce qu'on a une évolution de l'interprétation de ces pièces sur la durée, même sur une durée de 34 ans. Des enregistrements, deux enregistrements qui ont été supervisés par le compositeur, le Blaserkantat des Südwestfunk, et puis le London Winds. Ce sont les deux seuls enregistrements, les autres ont été faits de façon indépendante. Mais ça aussi, ça nous pose une question. Est-ce que ces enregistrements vont être plus proche de la partition, des indications de la partition? Est-ce qu'ils vont se différencier des autres? Ou sur quel point, s'ils se différencient des autres, sur quelle variable d'interprétation? Est-ce que c'est sur toutes les variables ou seulement sur quelques variables d'interprétation? L'origine des quintettes aussi, on a 4 quintettes allemands, 2 quintettes italiens, 1 français, 1 anglais, 1 autrichien, 1 néerlandais. Donc là aussi, on peut voir, est-ce qu'il y a une influence de l'origine sur l'interprétation? Bon, c'était une question que je me suis posée. Je me suis aussi posé la question de la composition des quintettes, parce qu'on peut avoir des hommes et des femmes. La majorité de ces quintettes sont composées d'hommes, avec 5 hommes. Mais on a quand même un quintet, Albert Schweitzer Quintet, qui est majoritairement féminin, avec 4 femmes et un homme. Et donc là aussi, c'était le bassoniste. Là aussi, c'est quand même une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on a une influence de la composition du quintet sur l'interprétation? Voilà. Et puis, dernier point qui était aussi intéressant de relever, c'est la façon dont ont été enregistrés, en tout cas les conditions d'enregistrement. Alors bon, c'est compliqué, parce qu'on n'a pas toujours les données dans les jaquettes de disques, et on n'a pas toujours toutes les données, en tout cas au niveau du matériel d'enregistrement, ça c'est assez rare. Je l'avais sur 2 enregistrements récents, en fait. Ça, hein. Par contre, ce que j'ai pu récupérer, c'est le lieu. Est-ce que c'est enregistré en studio? J'ai sur l'ensemble, sur les 10, la moitié en fait, hein, la moitié des enregistrements qui ont été faits en studio. J'ai 3 enregistrements qui ont été réalisés dans une église, donc avec une acoustique plus réverbérante. Ça dépend aussi parfois. Le quintet néerlandais, donc j'ai pu récupérer des images de l'église en question, chercher des indications un petit peu, et en fait c'est une église qui est il y a beaucoup de bois à l'intérieur. Donc voilà, là, il faut faire attention à ce genre de choses. Et puis 2 enregistrements qui ont été faits dans une salle de concert. Donc voilà les données, hein, je dirais, externes. L'utilisation, alors qu'est-ce que j'ai fait comme analyse, type d'analyse? Il y a des analyses qui concernent les descripteurs, qui ont été faites avec les descripteurs. Il y en a d'autres, non, en fait, où je n'avais pas besoin des descripteurs, mais qui étaient vraiment importantes à faire. Par exemple, la durée des enregistrements, la durée totale des enregistrements, la comparaison de la durée totale des enregistrements avec la durée théorique, parce qu'elle est indiquée précisément par Ligeti. Donc on peut voir s'il y a des écarts importants entre ce qu'avait prévu le compositeur et les interprètes, ce qui a été fait dans les interprétations. Là, je peux vous dire que c'est absolument incroyable. Non, mais pas du tout. C'est-à-dire que vous voyez, sur 13 minutes, c'est la plus grande variante, c'est 13 secondes. C'est incroyable. Il y a une précision qui est diabolique de la part des interprètes. Mais aussi entre les pièces. Donc pour chaque pièce, il fallait comparer les durées entre les interprètes et entre la durée théorique et les interprètes. Alors j'ai essayé de faire aussi un travail sur le temps de réverbération. Bon, ça c'est un petit peu compliqué. Là je manquais, je veux dire, j'avoue, je manquais d'outils précis, parce que ça dépend un petit peu de la fréquence, ça dépend... comment on calcule le temps de réverbération? Bon, c'est pas tout à fait évident de trouver des mesures fiables en fait avec ça. Bon. En tout cas, j'ai pas réussi à le faire avec les moyens que j'avais. J'ai analysé l'idée de Ligeti d'avoir une variation de la tessiture. Je voulais voir si on retrouvait vraiment ça dans les interprétations. Donc j'ai utilisé le spectral roll-off pour faire ça. J'ai fait une analyse de la couleur de l'enregistrement. Alors je parle de l'enregistrement parce qu'il ne s'agit pas de la couleur sonore du quintet, parce qu'il y a des micros, il y a une salle avec son acoustique, avec sa couleur, et évidemment on capture tout ça. Donc là il s'agit de couleur sonore de l'enregistrement, donc j'en reparlerai après. Et puis donc j'ai pas analysé toutes les pièces parce qu'il y avait des choses redondantes, c'était pas la peine de le faire sur toutes les pièces, donc j'ai pris seulement 6 pièces, 3 pièces solistes, 4 pièces d'ensemble. Et puis je me suis focalisé sur certaines variables d'interprétation. Donc en utilisant pour chaque variable d'interprétation certains descripteurs. Voilà. Donc Donc, alors, ça peut être des choses assez globales. Par exemple, les changements de texture. Donc là, les changements de texture, j'ai utilisé la fonction de novelty. Ce qui me donne, en fait, ça me permet de voir si les changements sont vraiment contrastés, sont très francs. Est-ce qu'il y a une directionnalité? Est-ce qu'on peut voir une directionnalité ou est-ce que c'est quelque chose, une interprétation plutôt statique, fragmentaire? Ça c'était intéressant, ça m'a donné en fait des types d'esthétiques, des choix esthétiques vraiment très très clairs, très nettement marqués chez les interprètes. Hein, certains privilégient vraiment la direction, hein, ils vont crescendo si je puis dire, ils choisissent de marquer les textures plus ou moins, donc avec des climax. Et puis des chutes, etc. Alors que d'autres sont plutôt dans l'instant. Voilà. J'ai utilisé des choses plus précises, donc comme les détections d'attaque, des choses comme les saillances de classe de hauteur. Par exemple, quand on a un accord, certains accords, notamment dans la septième pièce, où on a une étendue de l'accord qui est très importante. Alors on pourrait croire que l'accord va sonner de façon identique. Avec tous les... Bon, il n'y a pas trop de raisons pourquoi ça changerait, selon les interprétations. Mais en fait, là, j'ai pu montrer qu'il y avait des différences vraiment très grandes, parce qu'il y a des questions d'équilibre, tout simplement, et qu'il y a, selon les quintettes, et selon les acoustiques, etc., il y a des sons qui ressortent, en fait. Et donc, cette saillance de hauteur me permet de dire, ben là, c'est plutôt le basson, là, c'est plutôt le corps dans telle quintette qui va ressortir. Et l'équilibre va changer aussi la façon dont on va percevoir, évidemment, ces accords. Et ça va changer. Est-ce que c'est homogène? Est-ce que c'est plus ou moins homogène? Ou est-ce que c'est pas du tout homogène? Bon, voilà, ça permettait d'aller chercher des questions comme ça. La rugosité, parfois, là, j'en parlerai tout à l'heure, la rugosité, notamment pour la pièce 9, qui est une pièce qui travaille vraiment là-dessus. Le tempo. Alors le tempo, j'avais pas les outils non plus pour le faire de façon automatique. Avec Antescofo, on peut le faire, mais je ne l'ai pas fait avec Antescofo, mais je n'avais pas à ma disposition. Donc quand j'ai pu le faire, je l'ai fait de façon manuelle avec Sonic Visualizer, en marquant les temps et en convertissant ensuite les battements en tempo. Alors c'était, pour certaines pièces, utile et très intéressant, parce que ça permettait aussi de comparer l'un des points critiques avec quand on utilise les descripteurs avec des pièces mesurées, c'est qu'on obtient des valeurs en secondes. Alors quand on veut comparer des interprétations, elles n'ont pas la même durée, donc ça devient compliqué. Donc tandis que si on a établi auparavant les valeurs de mesure, de battement, etc., on peut avec un petit logiciel, enfin, un petit programme qui est assez simple à faire, on peut rétablir chaque valeur par temps. Et du coup, on peut comparer temps par temps les valeurs. Donc, soit pour le timbre, le descripteur de timbre ou les descripteurs d'intensité, etc. Donc ça, c'était intéressant et utile de faire cette mesure du tempo, même si elle varie, même si parfois, pour certaines pièces, il varie très peu. Ça dépend évidemment aussi des pièces. On verra que dans la dernière pièce, il varie beaucoup. Mais parce que c'est une pièce justement qui joue beaucoup cette variable d'interprétation. Alors, voilà, je vais donner quelques exemples maintenant de résultats que j'ai obtenus. Le premier, c'était sur la couleur sonore donc des enregistrements. Donc là, j'étais intéressé de voir si on pouvait obtenir des différences nettes, manifestes. Entre les différents ensembles. Donc j'ai pris 5 descripteurs de timbres et notamment 3 descripteurs de entre guillemets de clarté, de brillance, donc le spectral centroïde, le spectral brightness et le roll-off, spectral roll-off, utilisé à 85%. Et puis donc le zero crossing rate qui est donc un indicateur de du nombre de fois que le signal passe par zéro. Donc c'est généralement utilisé comme un indicateur du bruit, le côté bruité du son, et spectral flux, donc qui est le flux spectral, la variation du timbre dans le temps, pour faire simple. Et donc j'ai fait ces mesures pour toutes les pièces, pour toutes les interprétations. Évidemment, quand on fait ça, on obtient beaucoup de valeurs, et ça, c'est compliqué hein, de voir ce qui se passe. Donc il vaut mieux à ce moment-là utiliser une analyse en composante principale qui permet de réduire ces données à deux facteurs. Et d'avoir deux facteurs qui permettent de classer les interprétations sur un espace à deux dimensions. Et donc l'ACP permet d'expliquer la variance ici à un peu plus de 80%, et notamment l'axe horizontal, qui va expliquer la variance à 56%, donc qui est l'axe de la brillance. C'est-à-dire que les pièces qui sont situées complètement à droite de la représentation sont celles qui ont une couleur plus claire, qui vont sonner plus clair. Les enregistrements qui vont sonner plus clair, plus exactement. Et évidemment, ceux qui sont à gauche vont sonner de façon un petit peu plus sombre. Globalement plus sombre, hein, puisque là, en moyenne, vraiment toutes les pièces, sachant qu'il y a des pièces qui travaillent dans le registre grave, d'autres dans le registre suraigu, etc. Et puis donc l'axe vertical, qui explique un petit peu moins, à 24 et quelques pourcents, donc il va correspondre à quelque chose qui est plutôt de l'ordre du côté un peu sale, un peu bruité du son, du côté du son qui va varier un petit peu, hein, qui va être un petit peu, qui va bouger. Ça capture parfois aussi tout ce qui est du domaine du vibrato, des choses comme ça. Hein. Voilà. Et donc les ensembles qui sont en haut vont être ceux qui vont être le plus bruités. Et au contraire, ceux qui sont en bas, qui sont plus bas dans la représentation, sont les plus, ceux qui sont le plus propre, entre guillemets, hein. Les qualificatifs qui ne sont pas très satisfaisants, mais bon. Voilà, donc je peux vous donner un exemple pour la clarté, par exemple. Ici. Donc sur une pièce, hein, évidemment. C'est pas très fort, hein. Donc c'est le début de la première pièce. Voilà, et puis celui qui est complètement à droite. Voilà, on peut comparer aussi donc celui-ci, BDS et puis WB. Voilà, alors on est bien sûr sur des petits exemples, alors que là, la représentation, elle concerne vraiment l'ensemble, hein, l'ensemble des pièces. Et donc les différences, elles ressortent quand même plus, elles ressortent bien sur les pièces qui explorent plutôt le registre grave, comme la première pièce ou la troisième pièce, ou celles qui explorent le registre aigu ou suraigu, hein, comme la neuvième, la septième ou la neuvième pièce. Un autre exemple... donc, qui concerne la sixième pièce, et plus particulièrement, donc j'ai fait d'autres analyses hein, sur cette sixième pièce, mais donc c'est une pièce où il y a beaucoup de changements de timbre, de tempo, de texture, de dynamique. Et ce qui m'intéressait là, dans ce cas-là, c'est la fin de la pièce, la coda, où on a des modes de jeu brutés. Donc la pièce se termine comme ça. Donc d'abord dans le suraigu, puis hop, on a tous ces modes de jeu bruités avec la flûte, le cor et le basson. Et donc là, je voulais voir si donc le descripteur de ZCIR pouvait donner quelque chose, hein, si on pouvait obtenir des différences notables dans le rendu. Alors, on trouve des différences entre certains enregistrements. On va avoir une différence en fait qui va concerner plutôt le degré de son à hauteur déterminée en fait. Voilà. Est-ce qu'on entend des sons à hauteur déterminée ou est-ce que on a vraiment des choses très très bruitées? Et c'est ça qui va ressortir. Donc par exemple là. On a une valeur faible de ZCR, donc il y a des sons à hauteur, on entend bien quand même ces sons à hauteur déterminée, notamment la flûte, le mode de jeu de la flûte. Alors que, donc ici, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus bruité. Donc là, c'est vraiment très bruité. Et ici, je n'ai pas pris le bon. Si, c'est ça. Vous entendez quelque chose?
Non.
Pas grand-chose. Hein. Eh oui, c'est ça.
Il n'y a pas un autre accès ou...
C'est pas l'accès de ça. Parce qu'il y a... Je pense qu'il y aurait un player ampli dans la boîte.
Bah attends, mais ça, c'est en ouvrir.
Ah bah si.
Reste à savoir. Ça doit être mon meilleur dynamique, c'est autre chose. Vidéo sélecteur, audio level.
Ouais. Je vais faire un petit essai.
Non, ça joue pas.
Ça joue pas.
Je crois pas.
Vas-y. Là j'ai ça ouais. Ça tourne là.
Ça, à moins que ce soit ça, attends, vas-y. Hein.
Ah ouais.
C'est bien, bien caché.
Super.
Ça va là?
Ah ouais. Ça va.
Donc, vous avez un peu de marge. Ah, c'est parce que ça me buzz.
Ah oui.
J'ai compris.
Ouais. Bon, on va trouver le compromis, le bon compromis. Voilà, donc, alors ça nous dit, ça nous donne le degré de bruit, mais ça ne nous dit pas exactement pourquoi. Évidemment, là, on n'a pas l'outil qu'il faut. Mais ça permet quand même de faire des petites remarques, hein, notamment que parmi les enregistrements qui ont été supervisés par le compositeur, hein, sachant que dans la partition, c'est vraiment indiqué souffle seulement absolument sans hauteur. Hein. On a parmi les deux enregistrements supervisés, BDS, qui suit vraiment la partition, cette indication, hein, avec beaucoup de sons bruités, alors que London Winds, non, les deux, excusez-moi, je vous dis, oui, c'est ça, London Winds est très peu bruité. Et donc l'enregistrement est postérieur. Voilà. Alors est-ce que Ligeti n'a pas fait attention? Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, on a vraiment une différence. Ici, et pourtant sur deux enregistrements supervisés par le compositeur. Alors, autre exemple avec la pièce numéro 7, hein, qui est une pièce avec des accords espacés par des silences, en tout cas, toute la première grande partie de la pièce est faite comme ça, avec des accords, des silences ou parfois des sons qui résonnent un petit peu, hein, qui durent. Donc, avec un caractère un petit peu parfois agressif, parfois mystérieux, selon la façon dont les interprètes vont essayer de faire ressortir. Et donc la façon d'attaquer ces agrégats est vraiment importante, hein, c'est ce qui va imprimer immédiatement le caractère à l'interprétation. Et donc là, donc Ligeti précise sur la partition court et très dur. Et donc la franchise de l'attaque, la synchronisation de l'attaque va donner ce caractère tout de suite à la pièce. Et donc j'ai analysé là, les temps d'attaque sur les cinq premiers. accords. Et donc j'ai moyenné les valeurs sur les 5 premiers accords, ce qui permet de voir un petit peu, de caractériser les interprétations de ce point de vue-là. Et donc on voit qu'on a 3 interprétations qui ont des valeurs, des temps d'attaque donc supérieurs, bien supérieurs à la moyenne, alors que 3 autres sont bien en dessous, en fait. Et on va avoir une forme aussi là d'esthétique sonore, et notamment c'est quelque chose qu'on retrouve chez le Fedor Quintet, où presque dans toutes les pièces, on a ce côté très très énergique, très très. Il cherche toujours le côté plus violent. Voilà, une esthétique assez marquée, assertive, par rapport à d'autres ensembles qui vont être plus homogènes, qui vont moins jouer sur ce côté-là. Ils vont moins exagérer les dynamiques, vous voyez, ce genre de choses. Alors, voilà, des petits exemples. Donc là, avec des temps longs. Temps plus court. Un autre exemple tiré de la 9e pièce, donc c'est qui est une étude en fait sur les battements et les sons différentiels. Donc les 3 instruments jouent dans le suraigu, au départ sur la même note à l'unisson, et progressivement se décaler en hauteur. Et donc évidemment il y a création de battements et de sons différentiels. Donc là, c'était intéressant de voir aussi si on pouvait faire ressortir ces différences entre les interprétations et de savoir pourquoi, en fait, parce qu'a priori, on ne devrait pas avoir tant de différences que ça, parce que c'est vraiment une écriture extrêmement précise. Il y a moins de variables, en fait, pour jouer là-dessus. Bon, il y a quand même des différences. Je peux vous faire écouter des petits extraits, mais bon, il faut entendre la pièce en entier en fait pour entendre vraiment la différence. Sur le début de la pièce, c'est pas là où il y a le plus de dissonance, hein, mais c'est vraiment dans le cours de la pièce. Mais on voit qu'il y a vraiment des différences très importantes selon les interprétations, et je me suis posé un petit peu la question. J'ai essayé de comprendre pourquoi on avait autant de différences sur ce type de pièce. Et donc là, j'ai fait la corrélation avec les durées d'enregistrement en fait pour cette pièce-là. Et il y a quand même une corrélation, 0.54, entre la durée et le taux de rugosité. Donc plus vous avez des pièces qui durent, donc plus les instrumentistes prennent leur temps pour faire les sons, plus il y a de rugosité. Et inversement. Et donc là aussi, il y a des différences entre les 2 interprétations qui ont été supervisées par le compositeur. Avec le premier enregistrement de BDS, qui est moins rugueux, entre guillemets, que le deuxième, celui de London Winds. Voilà, mais les 2 finalement sont parmi les moins rugueux parmi l'ensemble des interprétations. Et encore une fois, on va avoir des interprètes qui vont vraiment choisir d'accentuer ce facteur-là. Et notamment le premier ensemble Albert Schweitzer quintette, qui a des tempos toujours plus lents que les autres, qui s'écarte complètement des autres interprétations sur vraiment beaucoup beaucoup de points de vue. Alors un dernier exemple sur la dixième pièce, qui est un mini concerto pour basson, donc un vrai défi pour l'instrumentiste, hein, donc le tempo extrêmement rapide, au départ à 112, après à 120, mais avec des doubles croches, des valeurs rythmiques qui changent sans arrêt, différents types de valeurs, des changements de tempo, des rythmes fluctuants, enfin, bon, des sauts d'intervalle, des tessitures extrêmes. Bon, c'est vraiment extrêmement difficile, hein. C'est vraiment très 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 difficile pour le musicien. Donc là, j'ai essayé de... Donc l'idée, oui, là l'idée c'est que il y a vraiment la conduite de la pièce, elle repose sur ce musicien en fait, sur le bassoniste, et donc sa capacité à respecter le texte en fait, hein, dans le tempo indiqué. Donc j'ai fait des profils de tempo, c'était assez facile à faire. Donc là, on voit les 10 interprétations plus la moyenne en pointillé, le tempo moyen. Et ça saute aux yeux, évidemment. Là, on a des différences énormes entre les interprétations, notamment à certains endroits de la pièce. Par exemple, dans les pauses, il y a des endroits où il y a des silences. Il y a de grosses différences dans ces endroits-là. Et puis à la fin de la pièce, mais c'est plutôt un seul ensemble qui part dans un tempo complètement extravagant. Donc il faut dire aussi que la pièce se termine seulement avec une note tenue. L'instrumentiste peut écourter un petit peu en fait ces notes-là. Donc c'est ce qui explique aussi la différence de tempo à la fin. Donc on a des grosses différences, des moyennes de tempo qui ressortent aussi avec des grandes différences, parfois avec des écarts-types aussi importants. Donc on a un ensemble qui essaye de respecter IQB, il quintetto bibbiano, qui respecte l'indication presque, pratiquement, et très légèrement en dessous, sa moyenne de tempo est très légèrement en dessous, tous les autres sont en dessous. Et donc, c'est même parfois très en dessous, puisqu'on est, vous voyez, parfois donc à 78.78. Donc avec des tempos qui sont parfois beaucoup plus lents. Hein, mais ça ne veut pas dire que moi, je ne mets pas du tout de jugement par rapport aux interprètes, ce n'est pas mon rôle, hein, je ne suis pas du tout dans la critique. Je fais ressortir simplement des choses, et ça fait aussi ressortir des différences esthétiques, parce que c'est des choix aussi, c'est pas seulement les capacités techniques du musicien, hein, qui font que on a des tempi qui sont plus lents, c'est aussi parfois des choix, vraiment des choix esthétiques, et notamment pour cet ensemble ASQ où tous les tempos sont plus lents systématiquement. Si c'était que pour cette pièce, on se dirait là c'est vraiment le bassoniste. C'est pas le cas, c'est vraiment partout. Donc il y a un choix, il y a vraiment un choix esthétique. Et donc ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir si on a un lien entre l'intensité et le tempo. Donc là j'ai utilisé le loudness, l'analyse de loudness. Alors là on a par contre des corrélations extrêmement fortes entre les différents interprètes. La corrélation moins forte c'est 0.83, hein. La plus forte c'est 0.95. Contrairement au tempo, il y a des écarts énormes. Avec le loudness, on a donc un respect vraiment très très précis des intensités. Et donc, il fallait regarder s'il y a une corrélation avec le tempo, parce que dans les études d'interprétation, notamment, bon, c'est surtout évidemment dans les pièces romantiques, on voit qu'il y a souvent, surtout avec Chopin, donc un lien fort entre le tempo et l'intensité. Hein, dans les ralentis, on a une baisse de l'intensité. Bon, j'ai quand même vérifié s'il n'y avait pas quelque chose, bien que je n'y croyais pas tellement. Et il n'y a pas du tout de corrélation, ni positive ni négative d'ailleurs, entre les deux. Donc là, les valeurs ont été ramenées entre 0 et 1, hein, pour pouvoir comparer les valeurs de loudness et de tempo. Et donc, vraiment, parfois, on a à quelques endroits donc une correspondance, mais c'est rare. Hein. C'est vraiment extrêmement rare. Voilà, il y a quelques endroits. Mais c'est plus dû, finalement, à la partition elle-même qu'aux interprètes, en fait. Voilà, donc, en conclusion, je dirais que ça ne résout pas toutes les questions concernant l'étude de l'interprétation, c'est des scripteurs audio, bien évidemment, hein, mais ça nous permet d'avoir des valeurs, d'avoir des données, de pouvoir réfléchir, de commencer à réfléchir. Ça ne suffit pas, c'est certain. Bien sûr, il y a l'oreille, hein, il y a notre oreille qui joue beaucoup, qui compte. Et puis, bien faire attention aussi aux réglages. Peut-être Mireille en parlera aussi, hein, et au type d'algorithme qu'on utilise, parce qu'on peut avoir, c'est un peu le problème quand même, des valeurs qui diffèrent beaucoup, hein, selon ce qu'on choisit, en fait, hein, ce que l'analyste choisit. Voilà, je vous remercie. Oui, le tempo, j'ai essayé, hein, avec les outils dont je disposais, de le faire de façon automatique. Ça m'aurait bien arrangé, je dois dire. Mais ça ne marche pas, hein. Ça ne fonctionne pas. Parce que les outils ne sont pas adaptés, tout simplement. Je pense qu'en Tescofo, il arrive parfaitement. Il arriverait parfaitement, je pense. Mais impossible, hein. Ça ne fonctionnait pas. Donc je l'ai fait à la main. Avec Sonic Visualizer, donc en marquant, en mettant les marqueurs. Voilà.
Et par rapport à ça, vous avez. Parce que tout ça est sous l'ensemble des descripteurs, vous aviez. Parce que certains, vous les utilisez avec Sonic Visualizer, d'autres de la Virtual Box, ouais. Le dépôt, par contre, vous faites à la main. Ouais. Par rapport à votre tableau du début, vous faites les catégories de descripteurs. Quelle est votre impression par rapport à ce qui marche, à ce qui ne marche pas?
Moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent quand même dans l'ensemble, dans ceux que j'ai testés en tout cas, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Pour le centroïde spectral, j'ai un petit problème, peut-être vous pourrez expliquer ça, mais le problème, il monte, les valeurs montent dans les silences, donc ça pose un problème pour les moyennes. Donc finalement, je l'ai peu utilisé. Celui-ci. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, mais il y a pas mal de choses. Enfin, les descripteurs de timbre marchent d'une façon générale très bien. Science de hauteur, je trouve que ça fonctionne aussi très bien. Alors, je m'en suis servi parfois donc avec des mesures, mais parfois aussi pour dans la sixième pièce, par exemple, le solo de corps. C'était intéressant de voir, de mesurer aussi l'intonation du corniste. Parce que là, on a aussi beaucoup de surprises. Et c'était vraiment intéressant pour ça. Là, ça fonctionne très très bien. Alors, j'ai utilisé un descripteur de... des descripteurs d'attag, descripteurs de silence quand même, parfois, quand il y a des plages de silence, pour mesurer les plages de silence. Ça fonctionnait bien aussi, très bien. Les descripteurs d'onset, non. Voilà. Tout ce qui est du domaine rythmique, finalement, je n'ai pas réussi à obtenir des choses vraiment probantes. Voilà. Non, j'ai normalisé.
Je vais te poser une question, parce que tu as parlé de quelque chose au début, que tu analyses des enregistrements. Alors, est-ce que tu as senti que de temps en temps, il y avait la main lourde de l'ingénieur son sur les enregistrements? Parce que ça, quelquefois, on sent, spécialement des enregistrements en studio, ils sont coupés, recoupés, recollés, et après, même...
Alors ça, j'avais aucun moyen de savoir sur le montage. Malheureusement, il faudrait pouvoir discuter avec les ingénieurs, avec les qui ont fait les enregistrements et l'édition.
De temps en temps, alors, c'est pas toujours facile, mais parce qu'on voit au niveau de la forme d'onde, on peut voir des petites cassures comme ça. C'est pas facile. Juste pour dire que ce n'est pas compliqué, c'est pas facile.
Mais ça joue forcément. Ça joue. Alors, par exemple, pour la respiration. J'ai fait donc la première pièce. La première pièce, elle commence par une mesure de silence. Donc c'est intéressant de voir qu'est-ce que font les musiciens de cette mesure de silence. Alors là, je pense que l'ingénieur du son intervient. Parce que j'ai des enregistrements où j'ai niveau plat, il n'y a rien. Et puis j'ai d'autres enregistrements où j'ai une bonne respiration là, pour démarrer. Qui indique le tempo. Donc là, elle est présente, elle fait partie de l'interprétation et parfois elle a été supprimée. Alors peut-être, je ne sais pas si c'est là encore une fois, à la demande des interprètes ou si c'est un geste de l'ingénieur du son qui s'est dit oh là, il y a du bruit là, je vais couper ça.
Notamment dans la pièce où il y a les attaques. Là, il y a quelquefois une espèce de grain de réverb.
Ah oui, c'est là que ça s'entend le mieux, hein. C'est sûr. Hein. Voilà. Et les mesures de réverb, j'avais fait là-dessus, en fait, sur cette pièce-là.
Bon, c'est pas facile.
Voilà, notamment sur... Ouais,
faut ça
voilà, c'est ça.
C'est rare dans un enregistrement de 4 têtes avant.
Ouais. Voilà.
Une pièce de percussion, ça fait tout ça.
Voilà, mais forcément, hein, ça c'est sûr que c'est... Je pense que l'ingénieur du son, il a partie prenante, quoi. Mais pour moi, c'est pas gênant dans l'optique de l'analyse de la performance. Bon, il y a des gens qui vont vous dire non, on ne peut pas analyser parce qu'il y a trop de différences entre les enregistrements, etc. Il y a des gens qui ont cette position-là.
La question, c'est quelle est l'incidence sur les paramètres que tu utilises, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y en a forcément une. Suffit d'y mettre un filtre quelque part parce qu'il veut quelque chose de plus brillant, quoi. Voilà. Et tout de suite, toi, tu vas récupérer. Alors, ce n'est pas les interprètes.
Oui, non, mais voilà, ça dépend.
Entre les enregistrements, pas ça par rapport à la comparaison au sein de l'enregistrement.
Oui, c'est ça, oui, entre les interprètes. Mais ça dépend des paramètres, en fait. Ça a un effet plus ou moins fort selon les variables d'interprétation. Voilà. Alors, bon, sur l'intonation, hein, les variations de hauteur, les micro-variations de hauteur, a priori, il n'y a pas trop d'influence. Voilà, sur la durée des silences, dans la pièce où il y a des silences comme ça, la pièce 7, ça peut jouer, la réverbération, les instrumentistes peuvent plus ou moins prendre de temps parce que le son dure, quoi. Hein, s'ils ne comptent pas forcément exactement les mesures, même s'ils comptent d'ailleurs, ça peut jouer. Là, c'est sûr, ça peut jouer. Mais je pense que, pour moi, il suffit de l'intégrer dans l'analyse, il faut le prendre en compte. Voilà, on ne peut pas faire l'économie de ça.
Je pense que dans ton cas, vraiment, ce n'est pas gênant. En plus, le fait d'avoir pris une dizaine d'enregistrements, quelque part, ça s'évacue.
Oui, c'est sûr que c'est
une espèce d'invariance.
Oui, sur la quantité, le corpus. Tellement.